Interview.
100 à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Aujourd'hui avec moi au téléphone, Bénédicte Michon qui va faire une session d'initiation à l'astrologie humaniste qui aura lieu au restaurant Loco Loco le 8 novembre 2013 de 19 à 21h. Bénédicte Michon, bonjour.
Bonjour.
Alors donc, peut-être commençons par le début. Qu'est-ce que l'astrologie humaniste? Et peut-être une toute petite question subsidiaire. Qu'est-ce qui la différencie de l'astrologie que tout le monde peut connaître par les horoscopes dans les dernières pages de journaux, par exemple?
Oui, de l'horoscope ordinaire du journal, on va dire. Hein.
Voilà, alors qu'est-ce que l'astrologie humaniste?
L'astrologie humaniste, c'est une astrologie, hein, tout de même. C'est donc une référence à ce qui se passe dans le système solaire et le lien que l'homme tisse avec ses astres, donc avec toutes les planètes de l'univers. Mais ce qu'elle a de différent de l'astrologie traditionnelle, c'est qu'elle n'est pas fondamentalement prédictive. C'est-à-dire qu'elle ne va pas prédire des événements précis. Parce qu'elle présuppose que l'astrologie, c'est une technique, c'est un art, c'est une science, une science humaine, qui est basée sur l'observation de l'expérience humaine en lien avec ce qui se passe dans l'univers, et que donc c'est une science symbolique, c'est un langage symbolique. Et ce sont des symboles compilés à travers les siècles et les millénaires, on va dire, et à chaque époque, chaque grande étape de l'histoire de l'astrologie, il y a eu une évolution de cette astrologie, elle s'est transformée. Au tout début, l'astrologie était une science astronomique. Les astronomes étaient astrologues. C'est-à-dire que ces mêmes astrologues étaient médecins, étaient alchimistes, conseillaient les agriculteurs, les éleveurs, les nomades sur, sur la fécondité de leurs troupeaux, à quel moment les faire féconder, etc., etc. À quel moment les zones, par exemple, du Nil allaient inonder les zones de culture. Et ils faisaient référence à l'astronomie. Donc, l'apparition de Sirius dans le ciel, sous la constellation d'Orion, etc., etc. Donc, ces astronomes étaient des érudits, vraiment de grands érudits. C'était des gens qui étaient des physiciens, des chimistes, des médecins, des agriculteurs. Et au fil du temps, ces astronomes ont commencé à guider un petit peu les gouvernants. Donc, les rois, les empereurs, les stratèges, les consuls, etc. Puis, petit à petit, l'astrologie s'est un petit peu répandue dans le peuple. Et là, elle a commencé à se vulgariser, à se dénaturer. Puis, est arrivée une autre histoire assez tragique pour l'astrologie, c'est que avec l'arrivée de la religion chrétienne, catholique, entre autres, les astrologues sont devenus des sorciers à éliminer. Pourquoi ? Parce qu'ils faisaient de l'ombre à la religion, à l'Église. Parce que, justement, l'astrologue ne peut pas s'en remettre complètement à Dieu, puisqu'il fait des liens avec les mouvements de l'univers, les mouvements physiques des planètes, etc. Donc, si vous voulez, l'Inquisition a brûlé toute trace d'astrologie scientifique, on va dire. Et cette astrologie a été condamnée. Donc, elle est restée parmi les ésotéristes, en fait, qui l'ont récupérée. Les ésotéristes, c'est tous ceux qui travaillent les philosophies occultes, donc cachées, hein, qui ne peuvent pas être mises à la portée de tout le monde, justement, puisqu'après, elles sont dénaturées ou bien persécutées. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en fait, par exemple, dans nos sociétés européennes, l'astrologie a existé vraiment, a été très prégnante dans les sciences occultes, chez les occultistes, jusqu'au XVIIe siècle. Puis, avec l'arrivée des sciences modernes, etc., elle a été vraiment totalement dénigrée et totalement oubliée. Ce qui fait que les scientifiques eux-mêmes ne se sont pas intéressés à l'astrologie.
Je me permets de vous interrompre. Alors, vous avez cité comme ennemi l'Église catholique, mais de nos jours encore, les scientifiques considèrent l'astrologie comme une pseudo-science ou une superstition. Ça n'a pas tellement évolué depuis.
Les scientifiques, il y a des textes là-dessus, les scientifiques, en fait, se positionnent comme ça, mais ne se positionnent absolument pas sur le postulat chrétien qui fonde notre société. Les calendriers qui sont alignés sur les fêtes chrétiennes, etc., eux ne remettent absolument pas en question ce postulat-là, ce fondement religieux, cette croyance-là. Si vous voulez, les scientifiques ont juste le tort de ne pas s'intéresser à cette science humaine expérimentale, hein, qui compile des données assez extraordinaires sur le lien entre l'expérience humaine et ce qui se passe au niveau de l'univers. Il y a des tas de gens qui l'ont fait, il y a des chimistes, des alchimistes qui l'ont fait, des homéopathes qui le font actuellement, entre des agriculteurs biodynamiques qui font ce lien-là entre ce qui se passe énergétiquement dans l'univers et ce qui se passe sur Terre. Il y a aussi des médecins énergéticiens qui font ce lien-là. La médecine chinoise n'est que ceci. Elle traduit en termes énergétiques ce que le corps physique est. Le corps physique est fait d'atomes qui sont eux-mêmes dans le cosmos. Nous ne sommes que parcelles de cosmos. Donc les scientifiques actuels, eux-mêmes, ont un regard très parcellaire sur l'évolution humaine. Et en fait, ce qu'ils reprochent à l'astrologie, c'est d'être un peu une science magique. Mais ils n'ont pas une démarche scientifique pour aller étudier l'astrologie. C'est ce qu'on peut leur reprocher, nous, de notre côté, nous les astrologues. C'est quand vont-ils se décider à avoir une approche scientifique sur le fondement astrologique ?
Oui, mais alors, est-ce que vous avez un discours suffisamment cohérent, fondé, avec des preuves ? Alors, je ne sais pas, hein, pour qu'une expérience soit valide, il faut qu'elle puisse être répétée et que les résultats en soient les mêmes. Est-ce que l'astrologie permet de déterminer véritablement des corrélations entre des mouvements de planètes et des faits ? Ça s'est fondé,
alors,
ça ?
Oui, demandez ça aux agriculteurs biodynamiques. Pourquoi est-ce qu'ils planteraient à telle lune croissante ou décroissante ? Pourquoi est-ce qu'ils planteraient, ils cultiveraient, ils récolteraient, ils moissonneraient à telle époque et pas une autre ? À tel moment de la journée et pas une autre ? Pourquoi ils mettent de la fumure à tel moment sur leur jardin et pas à un autre ? Et pourquoi est-ce qu'ils ont d'aussi beaux résultats en termes d'agriculture ? En termes qualitatifs aussi, la qualité de leurs légumes est extraordinaire. Quand les chimistes font des études, des analyses sur les récoltes d'agriculteurs biodynamiques et puis les récoltes d'agriculture industrielle, ils sont quand même époustouflés par la qualité vitale, de l'énergie vitale que possède le légume. Donc il y a certainement un grand rapport qui est prouvé et qui est prouvé depuis tous les temps. Que le fait que la menstruation des femmes s'aligne sur le cycle lunaire du rapport soleil et lune, c'est assez fabuleux. Notre société occidentale ne veut pas prendre en compte cet alignement, ce parallélisme, cette analogie entre ces événements stellaires et puis ces événements terrestres. Mais il y en a un, il y en a un. Donc c'est sûr qu'au niveau statistique, on n'est pas bon, on n'est pas doué, les astrologues. Il nous manque des données pour prouver. Mais a-t-on besoin de prouver ? Est-ce que dans les sciences humaines, est-ce que dans la psychothérapie, est-ce que dans la psychologie, est-ce que dans toutes ces sciences fondamentales, les sciences, je ne sais pas, la science de l'histoire humaine, est-ce qu'on amène toujours les preuves ?
Alors, peut-être pas, effectivement, mais il y a certains postulats de l'astrologie. Moi, personnellement, je suis surtout pas un spécialiste, mais que je peux comprendre, par exemple, que d'être né à telle époque, d'avoir vécu 9 mois dans le ventre de ma mère de telle à telle époque, donc ça conditionne un certain contexte qui fera que je pourrais être plutôt de nature à, etc. Ça, je comprends, mais peut-être est-ce que on pourrait considérer alors que ce sont les horoscopes qui ont fait du tort à l'astrologie, parce que autant on peut avoir des présomptions caractérologiques entre telle époque et tel caractère, oui, mais est-ce que prédire des événements précisément, c'est peut-être là que le bas blesse ?
Vous avez raison de ramener le sujet sur la prédiction, parce qu'en fait, du point de vue humaniste, justement, il ne se place pas dans la prédiction. Le but de l'astrologie humaniste, c'est d'aller cerner le centre de la personnalité, d'aller cerner l'individualité profonde, l'identité profonde de quelqu'un. Donc, c'est-à-dire de tenir compte de tout son conditionnement, de toutes ses interférences d'éducation, les interférences sociales, les interférences culturelles, les interférences familiales, de tenir compte de tout ça, mais en se basant quand même, en se rapportant au thème, qui est un schéma de développement, hein, qui est un schéma modèle de développement, puisque c'est un moment, une photographie du ciel qui est prise au moment de la naissance, à l'endroit où on est né. C'est ça le thème natal. Donc, c'est un modèle, c'est un schéma, c'est un plan de développement. Et après, l'astrologie humaniste dit, gardons notre libre arbitre. Soit on essaye de rentrer dans ce flux énergétique de développement, hein, on suit une évolution en fonction de ce plan-là, Et donc, on est,
En phase.
On suit le courant, et on évolue en fonction de ces grands cycles, de ces phases d'évolution, etc., de nombreuses étapes. Ou bien, on a le choix de ne pas suivre ce courant-là, de le refuser. On garde son libre arbitre. C'est tout l'intérêt de l'astrologie humaniste. C'est-à-dire que l'astrologue, qui reste quand même subjectif hein, dans sa lecture de ce langage symbolique, parce que c'est un être humain et qu'il est, il n'est pas forcément parfait, ni, donc il a une lecture quand même subjective. Donc il va proposer certaines orientations à son, la personne qui vient consulter, en disant, voilà, je vous fais une lecture sur plusieurs plans. Alors le plan physique, le plan physiologique, le plan social, culturel, le plan de l'individuation, hein, au sens jungien du terme, c'est-à-dire sur le plan de la personnalité propre, celle qui va se détacher de son conditionnement, justement, hein, et ou sur le plan spirituel. Voilà, je vous fais cette lecture-là. Choisissez, c'est vous qui choisissez. Au stade où vous en êtes, vous décidez de rester sur le plan physique, biologique, matériel, concret, ou vous décidez d'aller, de partir sur le plan plus social, plus culturel, donc d'évoluer en fonction de ce qu'attend de vous la société, etc. Ou d'évoluer sur un plan plus individuel, c'est-à-dire d'aller retrouver ce qui vous appartient vraiment, quelle est votre réelle identité, donc ce dont vous devez vous défaire de tous les conditionnements, peut-être qui vous empêchent d'avancer dans la vie et qui vous empêchent de vous réaliser. Sur le plan spirituel, c'est-à-dire, vous êtes sur Terre, dans quel but vous œuvrez pour aider quelle communauté d'humains, quelle est votre place dans cette communauté d'humains, quel service voulez-vous rendre à cette communauté d'humains, quelle est votre fonction, voilà. C'est toutes ces questions qu'on pose aux consultants.
Alors, si je vous reformule un petit peu, l'astrologie ne serait pas déterministe dans le sens où elle déterminerait des événements précis dans la vie de quelqu'un, mais pourrait aider les personnes en se connaissant à être plus en phase avec ce qui serait de mieux pour elles.
Tout à fait, tout à fait. Elles sont le miroir du ciel, hein. Elles reflètent une partie du ciel, une partie de l'univers. Ça reprend un peu les traditions chrétiennes qui disent qu'on a Dieu en nous, etc. Là, en fait, l'astrologie humaniste dit qu'on est un petit univers miniature et qu'on a un potentiel incroyable, qu'on a une dimension intérieure et extérieure de notre vie qui est extraordinaire et qu'on a un potentiel inouï d'énergie, de lumière, d'amour, etc. Mais qu'on ne l'utilise pas, qu'on est un peu empêtré dans la matière et dans notre époque, dans notre façon de penser, dans la façon de penser de notre génération, dans la façon de penser de notre culture, dans la façon de penser de notre civilisation, mais qu'on pourrait être bien plus que tout ça, en restant des hommes avec un grand H, c'est-à-dire en n'étant pas forcément des dieux, hein, des divinités. Et donc, en utilisant ces techniques et cette science-là astrologique, basée sur l'astronomie, sur des fondements astronomiques quand même, symbolique, un langage symbolique, on peut avoir des degrés de lecture qui décrivent des larges gammes de résonance, de correspondance sur plusieurs plans. Et ces symboles prennent un sens, une forme particulière dans nos vies, à un niveau ou à un autre, selon nos choix, selon notre choix. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité extérieure. Autrefois, on pensait que les planètes étaient des divinités, et qu'elles avaient une puissance sur nous, et qu'on devait les subir, et que voilà. Tout ça, c'est le symbolisme de la mythologie, hein. Et pourquoi la mythologie? En fait, la mythologie, c'est une projection de tous les codes moraux de l'homme sur le ciel, à travers les époques. Pourquoi elle existait, cette mythologie? Parce que, en fait, à l'époque, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de moyens de transmission durable, on va dire, hein. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de téléphone. On projetait l'histoire d'un héros qui avait dépassé son état d'humain, qui avait quelque chose à proposer à l'humanité dans son évolution. Donc on projetait sur le ciel, et voilà. Et il était dans le ciel pour des générations et des générations qui allaient se raconter la même histoire de siècle en siècle, et qui sont arrivées d'ailleurs jusqu'à nos oreilles aujourd'hui. Et donc on a une espèce de compilation de toute cette quête de l'humanité, de toute cette évolution de l'humanité à travers la mythologie. Donc on a plein de choses à retirer de cette mythologie. Et là, on n'est pas obligé de parler de statistiques. Je veux dire, même la psychologie, elle s'intéresse à la mythologie. Et cette mythologie, elle vient d'où? Elle vient du ciel. Elle a été projetée sur le ciel. Hein, quand on parle de Jupiter, l'univers, de Zeus, quand on parle, je sais pas moi, d'Orion, quand on parle de Cassiopée, Cérès, etc., etc. Toutes ces histoires-là, ce sont des histoires qui ont fait fantasmer les générations, mais en même temps, qui ont résonné, qui ont été évocatrices pour la démarche de l'humanité dans sa recherche de sens, dans sa recherche de sens. Voilà, le sens.
Non, mais j'entends bien tout cela. Sauf que si je me réfère un petit peu aux objections que la science peut avoir concernant l'astrologie, la science relève en effet deux objections majeures quant à la réalité des phénomènes mis en jeu. L'absence d'effet, hein, les prédictions astrologiques ne font pas mieux que le hasard, et l'absence de cause, il n'y a aucun mécanisme, je précise, hein, je suis en train de lire Wikipédia pour vous dire, il n'y a aucun mécanisme justifiant une quelconque influence astrale. Donc,
là, je vous reprends parce que nous, on ne parle pas en termes d'influence astrale. On parle d'analogie, de parallélisme, hein, mais il n'y a aucune détermination. Déterminisme, je veux dire, c'est pas une planète qui nous influence. On est à l'image de ce qui se passe dans le cosmos. On est le cosmos, on n'est pas influencé par le cosmos. Le futur, c'est nous qui le créons. C'est nous qui le construisons. Donc, il n'y a pas de fatalité extérieure. C'est nous qui construisons notre avenir. On part de ce principe-là en astrologie humaniste. Et on va partir de ce parti pris-là en disant, voilà, le thème nous dit, vous avez tel potentiel, telle ressource, tel don, tel talent, appuyez-vous peut-être sur vos potentiels, sur vos ressources, sur vos capacités, sur vos compétences, on peut les nommer, on peut les qualifier pour peut-être traverser des crises, orienter votre vie de telle manière à ce que ces crises-là vous fassent grandir. Et que vous ne les subissiez plus, que vous grandissiez dans une forme de croissance utile et non pas dans le fait de subir un destin qu'on ne comprend pas, qui n'a pas de sens.
Si je redeviens un petit peu concret, vous faites des thèmes de temps en temps d'astrologie humaniste envers des gens qui vous font cette demande peut-être ?
Oui, tout à fait. Ben oui, je donne des consultations.
D'accord. Alors qu'est-ce qu'attendent les gens et avec quoi ils repartent ? Ils repartent avec un espèce de tableau de leur caractère, de ce qu'ils sont en réalité ?
Oui. Alors, là, pour résumer un petit peu, effectivement, c'est un tableau caractérologique, c'est un tableau psychologique, c'est un tableau... Mais ça n'est pas que ça. C'est surtout réanimer la personne. Hein ? D'abord, on parle de réanimation de la personne. Quand elle arrive, souvent, elle est en crise, elle est à un carrefour, un moment de son cycle d'évolution qui est aigu. On parle de carré, on parle d'opposition, hein, de planètes qui s'opposent, de carré, vous en avez peut-être entendu parler. Aussi, même les personnes les plus profanes ont entendu parler de carré, d'opposition, voilà. Ben, tout ça, ce sont en fait des angles dans le ciel, de planètes, des angles aigus, hein, ou des angles qui font carré, 95 degrés entre deux planètes par exemple, ou en opposition qui font 182 degrés. Une pleine lune, c'est la lune qui est opposée au soleil, et la Terre est au milieu. Et bien quand on est dans des phases de carré ou d'opposition, ou même de quinconce, c'est 150 degrés entre deux planètes, et bien on est censé améliorer notre vie, la faire un petit peu bouger. Hein, on est censé la faire changer. Et du coup, comme l'homme est incarné dans la matière, que la matière résiste au changement, bah on va être amené à insuffler l'esprit à cette matière et de dire, voilà, vous êtes vivant, vous avez un carré dans votre thème, il y a une crise qu'on va nommer dans tel domaine ou tel domaine de votre vie. On va dire d'où elle vient, cette crise, l'origine de cette crise. Hein, on va repartir sur le départ du cycle qui a engendré la crise. Et puis, on va dire, quelle solution à cette crise ? Comment on peut orienter ce carré ? Comment on peut trouver la solution ? On va le dire aussi. Et ça aide beaucoup les gens. Beaucoup plus que souvent une thérapie de longue durée qui dure 10 ans. Parce qu'on peut donner des repérages chronologiques de temps. On peut donner des significations, on peut dire, voilà, recherchez bien dans votre mémoire, recherchez bien à tel moment, qu'est-ce qu'il s'est passé. Donc nous, on ne va pas dire ce qu'il s'est passé, on va donner une généralité, on va donner un sens général. C'est la personne qui, elle, sait exactement quel événement s'est déclenché à ce moment dans sa vie. Et c'est elle qui va donc trouver la solution. Nous, on ne fait que resituer dans son contexte cet humain.
Lorsque vous établissez un thème natal et que vous étudiez la situation de telle personne qui vous a consulté, la personne entend reformuler des choses qu'elle savait peut-être un peu déjà, puisqu'elle a vécu sa propre vie. Elle se dit « Ah oui, tiens !» Mais
on fait exactement le travail d'un thérapeute. On est un miroir, mais on a peut-être plus d'outils que le thérapeute. C'est là que je veux en venir. C'est-à-dire que le thérapeute, lui, va laisser du temps à la personne pour qu'elle elle se révèle à elle-même. Hein. Et donc, nous, on a un concentré de données historiques et de qualité aussi, hein, de données qualitatives. J'ai du mal à vous expliquer, mais quand on... Je sais pas, si on vous dit... l'année 2010, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Louis ?
2010, oh, c'était il y a tellement longtemps que je me rappelle plus. Moi, je suis tellement dans l'instant présent que je sais plus ce qui s'est passé en 2010. Et c'est pas... Pardon ?
Il y a 3 ans.
Ah non, non, mais en 2010, oui. Bah, à l'époque, j'étais en train de créer la radio du Diwa, donc c'était assez frénétique.
Voilà. Bon. C'était une époque frénétique pour tout le monde. C'était une époque où, justement, il fallait changer les structures fondamentalement, les structures de société fondamentalement. Il fallait apporter un souffle pionnier, hein, faire des ouvertures drastiques. Est-ce que vous avez eu du mal à réveiller un peu les consciences?
En tout cas, la radio du Diwa incontestablement a apporté la possibilité aux gens de s'exprimer, ce qui n'est pas si mal que ça. Donc c'était pionnier, oui, dans un territoire où il n'y en avait plus, certes.
Voilà, mais est-ce que c'était nouveau?
Ah, il n'y en avait pas, oui, bien sûr. Et on est effectivement, bon, sans vouloir faire trop de pub à Air Diwa, on est effectivement des éons en avance sur notre temps.
D'accord. Voilà ce que je voulais entendre de votre bouche. Et maintenant, aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce que vous améliorez? Est-ce qu'il y a des choses à revoir un peu dans le fonctionnement de Radio Diwa? Est-ce que vous êtes tous en train, je ne sais pas combien vous êtes dans l'équipe, en train de vous dire qu'il faudrait améliorer ceci, améliorer cela?
Bon, disons qu'effectivement, une fois qu'on a planté les jalons d'une entreprise quand même complexe, après, il faut peaufiner les détails.
Voilà. Je vous parle de cette année-là et je vous parle même du mois d'octobre, novembre.
Eh bien oui, oui, certainement, tout n'est pas rose.
Est-ce que vous en discutez là, en ce moment? Est-ce qu'il y a des débats très forts, très houleux, très intenses?
Bah, il faudrait.
Eh ben allez-y, je vous conseille. Voilà.
Parce que c'est le moment, c'est ce que vous êtes en train de me dire, en fait, si j'ai bien compris. C'est le moment de débattre de ce qu'il faut améliorer, c'est ce que vous êtes en train de me suggérer.
Oui, en ce moment, nous allons vers un temps sociologique, on va dire, de changement profond de structure, sur tous les plans, toutes sortes de structures. Les structures politiques, les structures culturelles, les structures psychologiques, les structures sentimentales, les structures individuelles, les structures collectives, les structures religieuses, les structures, on voit même les mouvements climatiques, physiologiques, les mouvements terrestres, les tremblements de terre, etc. On voit qu'il y a un changement très profond de structure, à quelque niveau qu'il soit.
Ce que vous êtes en train de me dire qu'il y a un changement de structure, c'est ce que nous appelons tous de nos voeux. Enfin tous, j'espère, parce qu'on a tous conscience que le système est arrivé à son extrémité et qu'il faudrait, Mais est-ce que ça se fait? Ça, j'en sais rien. J'ai plutôt l'impression que le système est plutôt bloqué et que les gens freinent des cas de fer alors qu'il fait effectivement, là je vous rejoins, il faudrait changer beaucoup de choses. Mais entre le « il faudrait » et le « et le fait »
Alors justement, mais alors, ça dépend de quel point de vue on se place, hein. Si on se place d'un point de vue de quelqu'un qui est très conservateur, qui n'aime pas le changement, et en général, des sociétés très conservatrices et qui ont stabilisé, hein, elles ont stabilisé leur économie, elles ont stabilisé leur confort, elles ont stabilisé leur production, elles ont stabilisé leur richesse, elles ont stabilisé, voilà. Et ben, l'humain, il est identique à cette société, et l'humain occidental, il est identique à cette société aussi, il se sent stable. Bon, on lui dit non, maintenant tu n'es pas tout seul dans l'univers, il y a d'autres humains comme toi, donc un collectif d'humains, hein, une grande communauté internationale, planétaire, qui demande un changement radical, qui demande le partage des ressources, qui demande une conscientisation plus grande de l'humain, dans ce qu'il donne aux autres, dans ce qu'il partage avec les autres. On lui dit change. Distribue tes richesses, partage, prends soin de l'autre.
Et ça, vous l'avez vu dans le tableau général?
C'est visible depuis quasiment décembre 2007. Hein, la crise internationale, elle était annoncée par les astrologues. La crise financière qui déstabilise tout un système.
J'espère que ce n'était pas a posteriori que vous me dites ça quand même. Je veux dire par là, c'est facile de dire, oui, on vous l'avait dit après coup.
Vous reprenez les revues de Jean-François Berry, donc mon enseignant, qui, en 2007, annonçait la grande crise financière, le krach boursier et la destruction d'un système. Mais ce que pensent tous les économistes, c'est qu'on va relancer le système. Mais c'est une grave erreur. Le système est en train de changer fondamentalement. Évidemment, il y a des cristallisations qui vont se faire. Tous les extrêmes se cristallisent. l'extrême gauche va dire oui, oui, le changement, oui, oui, à l'extrême, il faut balayer tout le monde, virer tout le monde, tous les gens, les milliardaires, il faut, voilà, bref, il faut qu'ils le partagent, il faut agir pour que ça bouge d'une manière extrême. Et puis, il y a les extrêmes droites qui vont dire, mais non, 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 mais c'est pas possible, c'est de la faute aux autres, c'est de la faute à la mondialisation, c'est de la faute aux Africains, c'est de la faute aux musulmans, c'est de la faute aux islamistes, c'est de la faute... Voilà. Donc, les extrêmes se cristallisent des deux côtés. La population qui est au milieu ne sait pas comment réagir, elle sait seulement que son confort va diminuer. Son confort matériel, bien sûr. Son confort matériel. Mais c'est elle que son confort psychologique, quand on parle écologie, quand on parle décroissance, quand on parle, je sais pas, énergie nouvelle, renouvelable, évitons de gaspiller, évitons de trop cumuler pour partager. C'est un côté positif quand même. Un éveil de conscience fabuleux depuis le début de l'humanité. C'est fabuleux comme éveil de réveil. Ce réveil de conscience-là, il est fabuleux. Qu'on puisse communiquer avec les gens qui font la révolution en Tunisie ou qu'on puisse communiquer avec les gens qui font une révolution, je sais pas moi, en Syrie, c'est complètement fabuleux. Notre époque est fabuleuse. Mais ça, on ne nous le dit pas. On ne nous le dit pas, surtout pas. On ne veut pas mondialiser le côté positif. Hein. On ne mondialise que le côté destructeur et terrible du chaos.
Je vous ai entendu, hein. Sauf que ce que vous avez dit sur le changement d'époque, je n'ai pas attendu l'astrologie pour le penser.
Si vous voulez, vous êtes peut-être plus conscient que d'autres, mais il y a quand même toute une majorité de gens à qui ça fait du bien d'entendre ça, parce qu'ils ne l'entendent pas à la télé, ils ne l'entendent pas sur les médias, ils ne l'entendent nulle part, ni parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire du développement personnel. Hein. Ben, ces gens-là, quand ils sont tout à fait moyens, tout à fait voilà, ordinaires, et ben, ces gens-là, ils ont besoin d'entendre ça. Ils ont besoin d'entendre ça pour leur propre évolution, pour qu'ils aient confiance en eux et qu'ils aient confiance en l'humain, au développement de l'humain. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il leur reste à part pleurer, à part peut-être se révolter et subir ?
Et alors donc, concrètement, dans le thème astral de l'humanité en général, je ne sais pas si c'est possible de faire un thème astral de l'humanité en général, vous voyez que cette période de transition, alors allons-y jusqu'au bout, s'ouvre depuis 2007, puisque vous m'avez parlé de cette date, et pourrait aller jusqu'à quand, alors, pour qu'on... Justement, donnez-moi de l'espoir.
Je vais plutôt rentrer dans d'autres considérations. Je vais vous expliquer qu'en fait, depuis le XVIIIe siècle, il y a eu les découvertes d'Uranus, Neptune et Pluton, qui sont trois planètes non visibles à l'œil nu. Et parallèlement à ces découvertes-là, on a découvert la psychologie des profondeurs. La psychanalyse, la psychologie, l'inconscient collectif, etc. Vous faites le rapprochement, depuis le XVIIIe siècle, là, quasiment, on est dans ces découvertes-là. Donc, je ne fais pas le thème natal de l'humanité, hein, là. Je dis que depuis le XVIIIe siècle, l'humanité progresse très vite, même si vous avez l'impression qu'il y a des régressions. En fait, ce n'est pas une régression, c'est que les gens... Ce n'est pas une vraie régression, en fait. L'humanité ne régresse pas. L'humanité se transforme, elle se transcende par justement l'arrivée de toutes ces découvertes, par l'arrivée de la science moderne, de la psychanalyse, de la psychologie, de la communication, etc. Donc elle est en train d'évoluer, mais dans un sens noble. Alors vous me direz, sur le terrain, non. Non, non. Dans le côté matériel, elle n'évolue pas. Elle est même très engluée. Mais c'est un peu le décalage entre justement le côté ciel, hein, on va dire le côté un peu sublimation, transcendance, et le côté terrestre. Hein. Mais petit à petit, toutes ces découvertes-là vont être intégrées par chaque humain. Mais il faut du temps. Il nous faudra bien 3 siècles.
Ah oh, zut, je ne vais pas voir la fin alors. Nous sommes à la porte
d'une nouvelle civilisation. Tout le monde l'a dit depuis longtemps, l'ère du Verseau, elle est là. Elle est là, mais on ne fait qu'intégrer ce que l'esprit, entre guillemets, Jésus-Christ a bien voulu nous dire, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres, considérez-vous les uns les autres, faites attention aux uns aux autres. C'est seulement maintenant qu'on comprend le message. Donc imaginez le message du Verseau qui dit vous êtes des hommes libres, autonomes, créateurs, dans une société libre, autonome, créatrice. Voilà. Donc ça, ce sera dans quelques 2600 ans que nous pourrons voir si l'humain a bien intégré ce message.
vous et moi ne serons pas là pour vérifier, ou alors peut-être nos réincarnations.
Là, je ne rentre pas dans ces considérations.
Moi non plus.
Je suis vraiment la philosophie orientale bouddhiste qui dit ici, maintenant, ensemble, après et avant. Je ne sais pas.
Très bien, alors, peut-être qu'on va s'arrêter sur ces considérations parce que c'est vaste et complexe et en fait je ne suis pas assez qualifié. Est-ce qu'on pourrait revenir à
Vous avez posé les questions essentielles.
Ah, mais je vous remercie. Ce qu'on a abordé aujourd'hui, je suppose, c'est une partie de ce que vous allez annoncer lors de votre présence au Loco Loco ce vendredi 8 novembre de 19h à 21h, si je ne m'abuse.
Oui, c'est ça. En fait, je vais me présenter, puis je vais présenter un petit peu comment se déroule une session d'initiation à l'astrologie humaniste, hein. Et donc, voilà, je vais dire ce qui se passe dans une session. C'est la prise de connaissance du thème natal. Qu'est-ce qu'un thème natal? Comment il résonne? Et puis, de quoi il est constitué, hein? De planètes, d'aspects, de maisons, etc., etc. Et puis, donner le sens de tout ça. Hein, donc, donner le sens de la fonction d'une planète, donner le sens d'un signe, donner le sens d'une maison, donner le sens du thème en général. Donc, je vais présenter tout ça ce vendredi.
Alors, vous faites une initiation, mais vous ne proposez pas de faire des thèmes astro.
Si, 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 tout à fait. Je suis aussi une personne qui donne des consultations. Hein. Voilà, il suffit de prendre contact avec moi. Donc moi j'habite en Ardèche du Nord, tout près de Vernoux-en-Vivarais, à Sillac, sur la commune de Sillac. Et mon téléphone c'est le 04 75 58 10 27. 04 75 58 10 27. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus?
Est-ce que vous consultez par téléphone? Parce que s'il y a des gens qui souhaitaient avoir un thème astral, faudrait-il qu'ils se déplacent ou est-ce que ça peut se passer par téléphone?
Alors, il est d'avoir un échange en tête à tête, hein, en face à face. Mais pour des personnes qui ne pourraient pas se déplacer, oui, je peux les prendre sur Skype, par exemple. On peut se téléphoner par Skype.
Alors, rappelez-moi, combien vaut une consultation par vos soins?
40 euros. 40 euros et la consultation dure environ 2h30.
Et là, selon votre expérience, les gens sortent avec une vie qui reprend un peu de sens.
Tout à fait. Les gens repartent vraiment réanimés. Vous voyez, les convalescents là, qui sortent de l'hôpital réanimés, avec un nouveau souffle, en étant plus confiants dans leur démarche, dans leur façon de voir la vie, dans leur vision. En fait, on les a recentrés sur leur propre vision. Ils ont souvent été décentrés par la vie, en général. Et donc, ils repartent recentrés et regonflés, on va dire. Voilà, confiants.
Cette conférence va annoncer d'autres événements à suivre?
Alors, en fait, nous préparons une session d'initiation à l'astrologie humaniste avec le restaurant Loco Loco. Cette session d'initiation à l'astrologie humaniste se déroulerait un dimanche par mois sur l'année scolaire. C'est vraiment une initiation, c'est-à-dire un coup de projecteur sur les savoirs de base astronomiques à avoir pour aller vers l'interprétation de l'astrologie, du thème natal. Donc, un petit coup de projecteur sur le système solaire, les cycles de temps qui rythment nos vies, jour, nuit, saison, année, etc. Qu'est-ce que c'est qu'une constellation par rapport à un signe? Qu'est-ce qu'une planète, une étoile, une galaxie, la composition du système solaire? Comment tournent les planètes autour du Soleil, leur révolution, leur rotation? Le cycle Soleil-Lune, très visible, qu'on peut observer au cours d'un mois. On fera un peu de géographie pratique, qu'est-ce qu'une latitude, une longitude, un méridien parallèle pour établir des coordonnées astronomiques, voilà. Dans ces journées, en tout cas dans la première journée qui aura lieu le 1er décembre, hein, on fera un peu de tout ça, on aura un coup d'œil concret sur des bases astronomiques et puis un coup d'œil plus symbolique avec des évocations plus poétiques, plus imagées sur les symboles astrologiques. Donc l'après-midi, on abordera plus l'aspect poétique et symbolique, on parlera de mythologie, donc on verra la symbolique mythologique des planètes par exemple. Et puis on abordera très rapidement ce premier jour le thème natal de chaque participant. Participante devra amener ses coordonnées de naissance, c'est-à-dire date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance, que nous rentrerons dans un logiciel astrologique Et puis, on commencera à décrypter très vite, par exemple, le sens du soleil, de la lune, de l'ascendant dans un thème, et à entrer dans le langage symbolique de l'astrologie, et décoder chaque élément du thème natal.
Un vaste programme qui vous portera jusqu'en 2025, à peu près, non ?
Bien sûr. Non, c'est vrai que c'est une session d'initiation, mais qui, si elle a du succès, pourrait continuer, se prolonger sur l'année 2014-2015, etc., en approfondissant cette connaissance astrologique et ce langage d'interprétation d'un thème. Voilà. La condition requise pour organiser cette session, c'est d'avoir au moins 6 personnes minimum, d'accord, et qui s'engagent sur l'année scolaire, que les inscriptions seront closes le mercredi 27 novembre.
Ouh là, vous avez des conditions draconiennes.
Non, mais c'est utile pour l'organisation quand même du cours, hein. Voilà, et puis on demande 40 € par personne et par journée. Alors, je vais vous parler des horaires aussi de cette journée, c'est 10h le matin. On s'arrête à 12h30, on mange ensemble dans le restaurant Loco-Loco. Et puis, on continue l'après-midi jusqu'à 16h30. Ensuite, on a un moment de discussion jusqu'à 17h, 17h30. Et puis, rangement de la salle. Voilà pour le programme de ces journées.
Bénédicte Michon, je vous remercie d'avoir accepté de débattre avec moi qui ne suis pas spécialement pour ni contre. J'entends bien un certain nombre d'arguments pour et contre et sans être sceptique, je demande à voir.
Merci à vous.
Je vous en prie. Et on peut rappeler une dernière fois, une session d'initiation à l'astrologie humaniste sera proposée au Loco-Loco, le restaurant de la rue de l'Armellerie, le vendredi 8 novembre de 19 à 21h par vos soins.
Merci beaucoup.
Mais je vous en prie. Bonne continuation, au revoir.
Bonne journée à vous, au revoir.
Interview. 1, terre.
Hey, the bird.
L'interview du jour. L'interview du jour.